Nissa El Jabri, au palais de l'Élysée, vous y êtes. Le gravier de l'Élysée a crépité toute la journée.
Oui, il y a eu un véritable défilé. J'ai compté 34 personnalités au total responsables du Parlement arrivées groupées par famille politique pour une réunion de quasiment 2 heures sous les ors de la salle des fêtes de l'Élysée. Les chefs de parti, eux, sont venus en cette fin d'après-midi. Ça vient de se terminer, s'entretenir avec le président dans son bureau avec une délégation. C'était leur choix. Nicolas Sarkozy, lui, était là ce matin en tout premier, ça parce que c'est l'ex-président, ce tête-à-tête qualifié de très direct et républicain par un conseiller de François Hollande.
La raison de telle conciliabule, Anissa El Jabri, bien évidemment, il s'agit de parler des attentats et de ce qu'il convient de faire.
Oui, il s'agissait d'informer sur les opérations en cours, les mesures déjà prises, celles à venir, certaines très concrètes et immédiates. On l'a compris, durant cette journée, François Hollande souhaite renouveler l'état d'urgence. Il peut le décréter pour 12 jours, ce qu'il vient de faire, mais pour cette prolongation, ça serait 3 mois a priori, eh bien, il faut un vote du Parlement. En fait, ce qu'on voulait montrer à l'Élysée avec la mise en scène de cette succession de rendez-vous, eh bien, c'est que le président consulte, écoute les propositions, mais surtout prépare déjà la réponse. Poste sur la scène intérieure comme à l'extérieur des frontières. On parle ici de réponse, Philippe, impitoyable.
Alors Anissa El Jabri, vous avez suivi donc tout cela toute la journée, vous avez écouté toutes les déclarations. Quel est le sentiment général qui se dégage ?
Eh bien, c'était toute cette journée, en fait, une tonalité très martiale. On a entendu parler de faire la guerre à ceux qui font la guerre, de détruire Daesh. Tonalité très martiale dans le vocabulaire, mais aussi dans toutes les propositions très nombreuses qui ont été faites. À part les communistes, les pieds quand même un peu sur le frein, qui, oui, demandent de la protection, mais tout ça surtout dans le respect des libertés fondamentales. Eh bien, dans tous les autres partis, on a cessé de demander davantage de mesures sécuritaires. Les centristes veulent la création d'une garde nationale de volontaires. Les radicaux de gauche qu'on fasse appel aux réservistes. Et puis à droite, on veut mettre la pression sur le président Nicolas Sarkozy, en tête d'ailleurs, sur le perron ensoleillé de l'Élysée ce matin. Il attire à boulet rouge sur la politique de François Hollande. Il faut parler aux Russes pour avancer en Syrie, prendre des mesures drastiques en termes de sécurité. Tous ces responsables londoniens, Marine Le Pen comprise, ils veulent que François Hollande reprenne certaines de leurs propositions dans son discours demain au Parlement réuni en congrès à Versailles. On est très attentif à tout ce qui est été dit, c'est ce qu'on dit ici à l'Élysée.
On le voit donc, ces attentats impactent toute la vie politique française. Loïc Bussière, comme tous les dimanches, dans Dimanche Politique, vous sélectionnez les principales prises de parole. Aujourd'hui, elles sont bien évidemment toutes consacrées au massacre de vendredi soir.
Oui, Philippe, avec en arrière-plan la thématique de l'unité nationale, l'unité appelée de ses voeux par l'Élysée, par la majorité dans son ensemble, à commencer par le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Il faut, dit-il, ce soir, une concorde nationale, une cohésion de l'ensemble de nos concitoyens, quels qu'ils soient. Des mots auxquels souscrit également le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone.
Plus que jamais, nous avons besoin de cette unité nationale. Vous savez, je parle, nous parlons, nous allons avoir de grands moments d'unité nationale, mais l'on saurait bien que nos ennemis nous regardent. Ils analysent chacune des divisions qui pourraient apparaître au sein de la société de la nation française. Donc nous avons un ennemi, c'est Daesh, c'est cette organisation qui a de l'argent et qui essaye par des attentats d'effrayer et de diviser.
Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, sur l'antenne d'RTL, qui met en garde sur une éventuelle division de la société française. Pourtant, on ne peut pas dire que la classe politique montre l'exemple, parce que l'unité est souhaitée par la majorité. Elle est moins de 48 heures après les attaques de Paris et de Saint-Denis, largement fissurée. Écoutez le président du Sénat, Gérard Larcher.
L'unité nationale, elle est là. Je l'ai dit hier, je suis aux côtés du président de la République et du gouvernement, mais nous ne sommes pas dans un gouvernement d'union nationale. C'est tout autre chose, et je pense que ça n'est pas utile et nécessaire.
L'unité nationale jusqu'à quand ?
Mais l'unité nationale, c'est la capacité de faire face ensemble. Est-ce que ça interdit de poser des questions ? Est-ce que ça interdit de réviser et la politique extérieure et la mise en œuvre des moyens ? Je pense qu'au contraire, nous avons l'opposition une responsabilité.
Alors, voilà, être unis n'empêche pas le débat, les questions sur la politique du gouvernement. Voilà en substance ce que dit le président du Sénat, Gérard Larcher, qui ne se dit toutefois pas opposé au concept d'unité nationale, pas plus que Marine Le Pen, mais elle aussi émet plus que des réserves sur la question.
Nous avons indiqué que nous étions attachés à cette union nationale, mais nous n'entendons pas l'union nationale comme un étouffoir. L'Union nationale ne se fera que derrière des actions susceptibles d'assurer la sécurité des Français. Car sinon, évidemment, cette Union nationale se délitera.
Voilà, la présidente du Front National, Marine Le Pen, reçue tout à l'heure sur le perron, qui s'exprimait sur le perron de l'Élysée après son entretien avec François Hollande.
Véronique Rigollet, du service politique de Radio France Internationale. Union nationale, elle existe bien depuis 3 jours. La question, c'est de savoir combien de temps elle va durer. Mais déjà, sur ce qui se passe ce soir, avec ce défilé donc de tous les responsables politiques à l'Élysée, c'est un signal fort.
C'est un signal fort, mais pour autant, même si on peut pas dire que l'Union nationale vole en éclats, elle a en tout cas sérieusement du plomb dans l'aile, comme on dit. Et ça pour la bonne raison que le chef de l'opposition, qui est Nicolas Sarkozy, eh bien ne veut tout simplement pas en entendre parler au sens propre comme au sens figuré. Il n'emploie pas cette expression, il ne l'a jamais employée. Il lui préfère l'expression de solidarité avec le gouvernement. C'est là la grande différence avec les attentats de janvier, les attentats contre Charlie Hebdo. Cette fois-ci, le chef de l'opposition ne parle pas d'union nationale, mais de solidarité avec le gouvernement.
Alors, quels sont ces arguments ?
Dans le camp des Républicains, Alain Juppé mis à part, hein, lui parle de la nécessité de l'unité de l'Union nationale. Dans le camp des Républicains, bon, on invoque deux raisons. On dit, bah, déjà, les Français, ils veulent pas qu'on leur parle d'unité. Depuis les attentats de janvier, ils ont le sentiment qu'il s'est pas passé grand-chose. Bref, ça suffit, on a perdu 10 mois. On n'a pas pris la mesure de la menace. Bien entendu, la proximité des élections régionales...
On y reviendra tout à l'heure. Ouais.
Oui, pèse évidemment dans cette volonté de ne pas parler d'union nationale. Pour autant, voilà qui explique pourquoi quand Nicolas Sarkozy est sorti ce matin de son entretien avec le président Hollande sur le perron même de l'Élysée, eh bien il a pointé du doigt ce qu'on considère à droite comme étant les échecs sur la scène nationale, sur la scène internationale de François Hollande, en réclamant des changements drastiques dans la politique de sécurité du pays, on vient d'expliquer, et puis un changement également dans la stratégie sur le dossier syrien.
Il y en sera question dans la deuxième partie de RFI Soir dans une demi-heure. François Hollande, alors qu'est-ce qu'il va dire demain ? Je rappelle qu'à 16h15, le président de la République s'adressera solennellement à la représentation nationale, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs réunis sous les ors de Versailles. Il prendra la parole pour rassembler la nation. C'est donc ce qu'on appelle le congrès, Véronique Rigollet.
Oui, c'est le congrès, c'est, il faut le dire, parce que c'est tellement rare, c'est une procédure totalement exceptionnelle. Alors on remonte à Louis-Napoléon Bonaparte en 48, premier à avoir réuni ainsi les députés et les sénateurs dans l'aile du midi du château de Versailles. Depuis, il y a eu Nicolas Sarkozy en 2009, et demain, ce sera donc le tour du président Hollande. Alors... Et on mesure une certaine forme de solennité dans cette envie de réunir, après une telle tragédie, l'ensemble de la représentation parlementaire. Mais ce qu'on attend du chef de l'État demain, ce que tout le monde attend, et ce qui était dans les discussions aujourd'hui, tout au long de la journée à l'Élysée, c'est qu'il prenne des décisions fermes pour faire face à la menace et assurer la sécurité des Français, de droite comme de gauche. Tout le monde attend ce genre de décision du président Hollande.
577 députés. 348 sénateurs réunis en congrès, c'est rare. Même après les attentats de Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, le président de la République ne l'avait pas réuni, ce congrès.
Oui, mais à nouveau, il semblerait que le président Hollande ait pris la mesure de la gravité de la situation. On parle cette fois d'un véritable carnage, 129 morts, 350 blessés. On voit peut-être pourquoi le chef de l'État a décidé de monter d'un cran et de s'adresser, dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, à l'ensemble de la représentation parlementaire. À nouveau, c'est de la gravité, c'est de la solennité.
Alors, il y aura d'abord une allocution nationale de la part de François Hollande, et puis après, des interventions des groupes parlementaires à la demande des Républicains.
Oui, les Républicains ont demandé ce débat, qui n'était pas obligatoire. Enfin, le président et l'Assemblée, et le patron de l'Assemblée, Bartolone, a entériné cette demande. Il y avait eu un débat la dernière fois, en 2009, donc, quand Sarkozy avait convoqué tout le monde à Versailles. Et chacun, comme ils l'ont fait aujourd'hui individuellement auprès du chef de l'État, du président Hollande, exprimera ses désirs et ses volontés pour à nouveau assurer la sécurité des Français.
Vous le disiez tout à l'heure, l'Union nationale a déjà du plomb dans l'aile. Est-ce que demain, lors de ces prises de parole des groupes parlementaires, cela éclatera, j'allais dire, au grand jour?
Mais ça a déjà éclaté. quand le chef de l'opposition refuse même de prononcer les mots d'union nationale pour simplement parler de solidarité du gouvernement, on sait précisément que contrairement à ce qui s'est passé il y a 10 mois après les attentats de Charlie, on n'est plus dans ce cadre-là.
Bonsoir Bertrand Badie.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à sciences politiques, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette union nationale qui est affichée mais qui visiblement a du mal à s'instaurer, à la différence de ce qui s'était passé dans les jours suivant les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher?
Moi, je suis frappé aussi par la différence de réaction et de climat entre ces deux moments. Hein. L'opinion publique, les acteurs politiques ne réagissent pas de la même façon. D'un certain point de vue, c'est peut-être un symptôme assez banal en politique de monter en puissance de cet enjeu. C'est-à-dire l'attitude de l'opinion publique et de la classe politique en janvier dernier, c'était le choc face à quelque chose perçu comme tout à fait exceptionnel. Un événement totalement dramatique qui crée en quelque sorte une émotion de rassemblement. Maintenant, on commence, je pense, à mesurer que au-delà de l'émotion, et Dieu sait si nous sommes tous émus, et peut-être encore plus qu'en janvier dernier, c'est bien toute une lecture du monde, de la société, de la politique qui est en cause. C'est-à-dire que cet événement épouvantable révèle quantité de dimensions de notre politique nationale, de la politique mondiale, de la politique étrangère de la France, de notre politique vis-à-vis de la société, vis-à-vis des flux migratoires et des flux de réfugiés qui déjà s'étaient rappelés à notre bon souvenir il y a quelques semaines, et que nous sommes vraiment face à un enjeu politique majeur. Face à un enjeu politique majeur, il y a rarement d'union nationale.
Vous écoutez Radio France Internationale, 19h22 ici à Paris.
Édition spéciale, Philippe Le Catelin.
Cette information à l'instant même avec un nouveau bilan fourni par les hôpitaux de Paris. Le bilan s'est bien évidemment alourdi. 3 des personnes blessées qui étaient hospitalisées viennent de décéder. Le bilan s'alourdit donc à 132 victimes. Il y a de nombreux rassemblements de soutien, de solidarité un peu partout en France, à Paris, malgré l'interdiction de rassemblement, hein, puisque c'est l'état d'urgence. De nombreux Parisiens sont place de la République, devant le Bataclan également. Et il y a eu des mouvements de foule il y a de cela quelques minutes, Simon Rosé.
Oui, les centaines de personnes qui s'étaient réunies spontanément, place de la République, bien se sont toutes mises à courir, un véritable mouvement de foule. Il y a une bonne demi-heure maintenant, un mouvement de foule qui s'est étendu jusqu'au boulevard Voltaire, devant le Bataclan, où là aussi beaucoup de personnes s'étaient rassemblées et réunies pour se recueillir. Et en parallèle, rue des Rosiers, des mouvements de foule similaires ont eu lieu. On a évoqué également la rue de Rivoli. La rue des Rosiers, ce n'est pas anodin, hein. C'est un des lieux où l'un des premiers attentats ayant frappé Paris a eu lieu en 1982. Donc de là, forcément, beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler, évoquant notamment des coups de feu. Mais il faut bien être clair, hein, les sources policières sont formelles. Il ne s'est rien passé de particulier. Les forces de l'ordre sont d'ailleurs en train, en ce moment même, place de la République, de mener un petit processus d'enquête pour essayer de comprendre en fait ce qui a provoqué ces mouvements de panique. Mais il faut bien le répéter, aucun coup de feu n'a été tiré. Il règne donc encore beaucoup de fébrilité, hein, 48 heures après les attaques, même si les Parisiens tiennent à se retrouver nombreux dehors, même pas peur, comme dit le slogan. La place de la République est d'ailleurs à nouveau remplie, quelques dizaines de minutes seulement après avoir été désertée.
Mais une grande nervosité, Paris sous tension bien évidemment, alors que l'état de guerre a été déclaré hein, quelques minutes après les attentats. François Hollande s'était adressé à la nation, à la télévision. Il avait donc déclaré, instauré l'état d'urgence, et rapidement, Loïc Bussière, il a également été question d'état de guerre.
Ouais, ce mot très fort, hein, de guerre, il a justement été repris par Manuel Valls, qui reprend donc cette rhétorique martiale dans les pas de François Hollande pour souligner la gravité de la situation.
Oui, nous sommes en guerre. Nous faisons face à un acte de guerre organisé méthodiquement par une armée terroriste, djihadiste, qui avait déjà planifié et organisé des attentats. 5 d'entre eux ont été déjoués depuis l'été. Mais nous avons toujours dit qu'il n'y avait pas de risque zéro. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons. Nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Bien sûr, en France et en Europe. Pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte. Mais aussi, et vous le savez, en Syrie, et en Irak.
Voilà, le Premier ministre Manuel Valls est sur le plateau du journal de 20h de TF1 hier. Cette thématique d'une France en guerre, reprise donc par Manuel Valls, elle n'est toutefois pas reprise par tous les acteurs de la vie politique. Un ancien locataire de Matignon la trouve même totalement hors sujet. Écoutez Dominique de Villepin.
Nous légitimons à travers cette idée de guerre qu'ils sont en guerre, qu'ils ont des objectifs de guerre et qu'ils veulent, à partir de là, conquérir notre territoire, nos positions. La vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. Ils veulent nous diviser. Ils veulent pousser notre pays à une sorte de guerre civile en engageant des représailles contre des membres de la communauté musulmane.
Voilà, Dominique de Villepin sur le plateau d'RTL ce dimanche. Alors au-delà de ce débat sur les mots, il y a les questions. Que faire? Quelles mesures prendre pour faire face à la situation? Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur ce point ce matin au sortir de son entretien avec François Hollande.
Sur le plan de la sécurité intérieure, nous devons, me semble-t-il, tirer les conséquences des failles et adapter notre dispositif sur tous ceux qui consultent des sites djihadistes, sur ceux qui font le djihad. Le principe de précaution, ce n'est pas simplement une question de la COP21. Le principe de précaution doit s'appliquer aussi pour la sécurité des Français.
Nicolas Sarkozy qui plaide pour un réel principe de précaution. Question subsidiaire posée toujours dans le camp des Républicains par Éric Ciotti. Ce principe de précaution n'aurait-il pas dû être pris il y a 10 mois au moment des attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère de la porte de Vincennes? Pour le député des Alpes-Maritimes, eh bien, rétablir le contrôle aux frontières et décréter l'état d'urgence, c'est bien, mais...
On peut se poser la question, pourquoi n'ont-elles pas été prises après le 11 janvier? On était dans un contexte quasi identique. Peut-être que si ces décisions avaient été prises, et notamment le contrôle aux frontières qui avait été réclamé alors par l'opposition, eh bien peut-être que certains événements auraient pu être évités ou on aurait pu mieux contrôler le mouvement des terroristes. On voit ce qui s'est passé avec la Belgique, ce lien. S'il y avait eu un contrôle permanent aux frontières, on aurait eu plus d'outils. Je ne dis pas que tout cela aurait été évité, mais on s'est privé sans doute d'outils. Ce que je reproche, c'est qu'on réagisse un peu après l'événement.
Le député des Républicains, Éric Ciotti, qui s'exprimait il y a un instant sur l'antenne de France 5.
L'état d'urgence, il en sera à nouveau question demain devant le Congrès, Véronique Nicolet.
Oui, d'ailleurs, les députés et les sénateurs attendent, bien sûr, le chef de l'État sur cette question. L'état d'urgence, c'est pas une situation normale ni classique pour la République française. Donc on attend Hollande pour répondre à la durée de cet état d'urgence. Et dans les conversations que les uns et les autres ont avec le président aujourd'hui, eh bien il est ressorti que le chef de l'État devrait réclamer la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. Et je pense que c'est une décision qui sera unanimement saluée par l'ensemble du Congrès. En tout cas, à droite, ils y sont favorables.
Votre commentaire sur cet état d'urgence, alors que la France est en état de guerre, dit Manuel Valls, Bertrand Badie.
Oui, attention au choix des mots. Peut-être on en discutera tout à l'heure. Guerre évoque des choses très précises et surtout la mobilisation de moyens très précis. Si on se trompe de situation, on se trompera de moyens. La seule question qu'un politique doit se poser aujourd'hui, quelle est la meilleure thérapeutique et la meilleure protection face à cela? Est-ce que imaginer toutes ces questions très complexes à travers le vocable de guerre conduit à la meilleure thérapeutique? C'est la question que je pose. Sur l'état d'urgence, je pense que ça fait partie des formes, des rhétoriques, de la manière de réagir à des situations de cette nature. On n'est pas au fond des choses, on est là dans la forme.
On verra dans la deuxième partie de cette édition spéciale quelles répercussions tout cela peut avoir sur la politique migratoire, également sur la politique étrangère de la France. Mais avant cela, nous allons voir de quelle manière ces attentats de Paris résonnent en Afrique. Il est bientôt 19h30 ici à Paris.
Édition spéciale, Philippe Le Caplain.
Zéphirin Kouadio, bien évidemment, donc les attentats à Paris constituent une information forte en Afrique. Toujours beaucoup de réactions.
Absolument. Les messages de condoléances et de soutien en provenance du continent sont nombreux. Dans beaucoup de pays, l'émotion est vive. C'est le cas notamment au Mali, un pays où la France est engagée dans la lutte contre le terrorisme à travers l'opération Barkhane. Dans ce pays, les attentats de Paris ont également une résonance particulière. De nombreux Maliens ont de la famille en France, notamment en région parisienne. C'est le cas de ces deux habitants de Bamako.
Vraiment, moi. Écoutez Alain Juppé.
Moi, j'étais sur la ligne du gouvernement, ni Daesh, ni Bachar.
Ce soir.
Aujourd'hui, il y a des hiérarchies, il y a des priorités. Il faut écraser Daesh. Et puis ensuite, nous verrons comment organiser la réconciliation des Syriens en changeant les équipes de Damas. Mais priorité à écraser Daesh.
L'ancien Premier ministre Alain Juppé.
Voilà, on vient d'entendre trois personnalités de droite. Ni le dictateur syrien, ni Daesh. On a l'impression que désormais, cela milite pour un tous derrière Bachar al-Assad. Votre premier commentaire, Bertrand Badi.
Je crois qu'on reste toujours enraciné dans les vieux schémas. C'est-à-dire que on traite la question syrienne et la question irakienne comme on traitait les questions des Balkans au XIXe siècle, comme le concert européen s'emparait des grandes questions qui agitaient l'Europe au XIXe siècle. Et il faut voir que ce monde a changé, que au lieu de se précipiter sur qu'est-ce qu'il faut faire, nous, Européens, sur le terrain ? Il faut se demander si, face à des conflits d'une nature profondément nouvelle, profondément différente de ce à quoi correspond notre mémoire historique, nous avons compris ce qu'était la bonne thérapeutique. Avez-vous remarqué que les interventions, depuis qu'elles ont été ainsi labellisées au lendemain de la chute du mur, n'ont jamais abouti à des résultats positif. Avez-vous remarqué que plus un État s'impliquait dans ses interventions, plus il renforçait la dynamique militaire des entrepreneurs de violence que l'on voulait combattre? Avez-vous remarqué que le jeu de Daesh, c'est d'attirer les puissances occidentales sur ce terrain de bataille? Avez-vous remarqué que ce conflit irakien et syrien, je dis bien « et » parce que ce sont deux conflits différents, que ces deux conflits trouvent leurs racines dans la décomposition des sociétés et des États syriens et irakiens? C'est-à-dire pas dans notre géopolitique, mais dans un processus d'échec de la construction de l'État dans ces deux pays. Alors, face à tout cela, il y a trois questions. Premièrement, quelle est la bonne thérapeutique ? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir à une régionalisation de ces conflits et à mettre en avant les puissances régionales, que l'on oublie toujours de mentionner, que ont été mentionnées une fois par un président, le président élu d'Égypte, M. Morsi, qui proposait le 31 août 2012 à Téhéran au sommet des non-alignés de construire une sorte de quartet de quatre puissances régionales, Turquie, Iran, Égypte, Arabie Saoudite.
Et troisièmement,
le multilatéralisme, parce que nous sommes dans un système d'alignement, dans une conjoncture d'alignement des planètes qui, pour la première fois depuis 1989, rend possible une résolution commune des cinq au Conseil de sécurité.
Sébastien Pietrasanta, député PS, est en ligne avec nous, ainsi que Axel Poniatowski, député Les Républicains du Val-d'Oise. Vos micros sont ouverts en permanence, messieurs, donc vous pouvez intervenir, bien évidemment, réagir à tout moment. Monsieur Poniatowski, donc vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, on a entendu les membres de votre parti s'exprimer sur ce qu'il convenait de faire désormais, c'est-à-dire très clairement se ranger derrière Bachar al-Assad pour combattre l'organisation de l'État islamique.
Je ne crois pas que ce soit exactement ça la position des Républicains. La position des Républicains, c'est qu'il faut hiérarchiser les priorités. Et hiérarchiser les priorités, ça consiste d'abord, à combattre Daesh jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Puis, on verra bien dans un deuxième temps quel est le régime à mettre en place en Syrie. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que on voit bien que les frappes aériennes, aujourd'hui, que ce soit en Irak ou en Syrie, ont porté leurs fruits, ont affaibli Daesh. D'ailleurs, Daesh a perdu deux localités importantes ces derniers jours, une en Irak et une en Syrie. Et par conséquent, on voit que Daesh est aujourd'hui affaibli. Néanmoins, ça ne suffira pas, les frappes aériennes seules, à mon avis, ne suffiront pas à reconquérir cette territoire afin de mettre en place des régimes qui soient des régimes modérés. Et se posera le moment, à un moment ou à un autre, de la présence de forces terriennes au sol. Et ce que je pense, c'est que là, bien évidemment, s'il doit y avoir forces terriennes au sol, et je rejoins la position de votre interlocuteur, c'est que là, obligatoirement, ça devra se faire par le biais d'une coalition internationale, mais pas seulement avec les Occidentaux, quels qu'ils soient, forcément avec les puissances régionales arabes. que ce soit l'Égypte, l'Iran bien sûr, que ce soit aussi la Turquie ainsi que les pays du Golfe. Et d'ailleurs, je constate que l'Arabie Saoudite a fait ces dernières heures, une ouverture à ce sujet. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'une action diplomatique beaucoup plus forte que ce qu'elle a pu être jusqu'à maintenant de la part de la France, de la part des États-Unis et de l'Angleterre, mais sans mettre de préalable, une fois de plus, à oui ou non Bachar al-Assad. Ce problème-là devra être réglé dans un second temps, et je pense que c'est le problème, en fait, de l'exécutif français depuis le départ, où ils n'ont cessé de vouloir mettre les deux problèmes sur le même plan, alors que il est important de hiérarchiser ces deux facteurs.
Sébastien Pietrasanta, régionaliser, nous dit le conflit, nous dit Bertrand Badi, ainsi que Axel Poniatowski, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'embraser finalement toute la région du Proche et Moyen-Orient en ayant cette politique-là?
Non, mais d'abord, je voudrais réagir aux propos qui viennent d'être évoqués. Il ne faut pas oublier que Bachar el-Assad est le premier responsable de cette situation-là. S'il n'avait pas massacré son peuple comme il l'a fait, c'est un criminel de guerre, nous n'en serions pas là. Daesh a prospéré sur les crimes de Bachar el-Assad. Ça a été une excuse pour un certain nombre de djihadistes étrangers de rejoindre Daesh pour combattre Bachar el-Assad. Donc on ne peut pas exonérer, donner un blanc-seing à Bachar el-Assad.
Personne ne le fait, je pense. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il est responsable d'une grande partie des 250 000 morts qu'ont fait cette guerre.
Oui, mais la solution ne peut pas passer par la personnalité de Bachar el-Assad. Qu'on puisse avoir une discussion politique, diplomatique, avec un certain nombre de dirigeants du régime syrien. Oui, c'est ce qui doit être fait, ce qui est en train. Les discussions, évidemment, sont en cours, mais ce criminel de guerre ne peut pas être la solution. Après, là où je rejoins ce qui a été dit, et je pense que les choses sont en train d'évoluer, c'est que d'abord, la solution, elle est à la fois militaire, mais elle est diplomatique. Les discussions qui ont eu lieu à Vienne et qui se poursuivent permettent d'envisager la sortie de crise. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on doit à la fois avoir une coalition internationale qui frappe plus fort. Moi, je pense que dans les heures, les jours qui viennent, il faut que la France prenne l'initiative de frapper encore plus fort Daesh d'un point de vue symbolique. C'est montrer que la France, par rapport aux attentats qui ont été réalisés le 13 novembre, eh bien, elle puisse avoir montré qu'elle ne tremble pas, qu'elle ne faiblit pas et qu'elle est totalement déterminé à détruire Daesh. Après, là où je termine, c'est que évidemment, il doit y avoir un travail qui soit fait avec la région, avec les pays de la région, mais y compris les Iraniens, et je le dis aussi, y compris avec l'ensemble des pays de la coalition, et au-delà, je pense qu'effectivement, nous devons nous coordonner avec les Russes.
C'est la raison pour laquelle, on va parler de l'Iran, puis après on verra la Russie, c'est la raison pour laquelle l'Iran fait partie maintenant des gens qui sont consultés, qui participent aux différents sommets pour étudier la situation en Syrie, Bertrand Badi.
Oui, l'un des aspects peut-être le plus important de l'accord du 14 juillet dernier, c'est la reconnaissance de l'Iran comme puissance régionale et singulièrement sa reconnaissance par les États-Unis. Donc de ce point de vue, la scène régionale est en pleine mutation. Je voudrais quand même revenir sur quelques points qui ont été abordés par nos interlocuteurs. D'abord, je crois que face à une situation aussi grave et aussi grave pour notre pays, la première priorité, c'est de se demander si nous avons la bonne thérapeutique. C'est pas un problème de mots ni un problème de rhétorique, les relations internationales. C'est un problème pratique et dont on sort toujours très affaibli lorsque l'on part d'une représentation faussée de la réalité. La grande différence, la grande mutation des guerres aujourd'hui, c'est qu'autrefois, les guerres de notre mémoire historique, c'était des confrontations de puissances. C'était des puissances qui étaient en rivalité. Aujourd'hui, la guerre, et singulièrement au Moyen-Orient, c'est un effet de faiblesse, de décomposition. Daesh n'a pas prospéré sur les crimes de M. Assad. Non, Daesh d'abord est né en Irak. Et est né en Irak de la décomposition du système politique irakien et de la décomposition du contrat social irakien, c'est-à-dire l'exclusion, la marginalisation des sunnites. Ce qui fait, et il faut avoir le courage de regarder la réalité en face, que Daesh a un soutien social. Il l'a
en Irak par cette population sunnite qui était exclue, et il l'a aussi en Syrie par cette population qui ne se retrouve pas du tout dans le régime autoritaire de Bachar el-Assad. Donc la première des lignes politiques, c'est doter à cet entrepreneur de violence qu'est Daesh sa clientèle. C'est-à-dire, c'est facile de dire il faut frapper, mais ça fait 25 ans qu'on frappe partout dans le monde. Et où est le résultat positif? Où est le résultat positif en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, dans le Sahel? Où il est ce résultat? Demandons-nous si nous ne sommes pas dans un monde qui a changé et si les recettes de la canonnière, surtout d'une canonnière venue de très loin.
Alors ça, c'est le constat. Mais alors, quelle est la proposition que vous faites?
Les propositions, elles sont d'une triple nature. D'abord, il faut recadrer ce conflit dans ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire c'est un conflit aux racines sociales et institutionnelles extrêmement profondes. Il faut le regarder comme tel. Deuxièmement, régionaliser. Mais régionaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à ceux qui sont de la région et qui sont de facto impliqués dans cette conflictualité. De facto. Nous ne sommes pas de facto impliqués dans cette conflictualité. Nous essayons de nous y impliquer.
On ne peut pas dire que nous ne sommes pas impliqués lorsque la France est frappée sur son territoire à plusieurs reprises par Daesh. On ne peut pas dire, on ne peut pas s'exonérer de notre responsabilité.
Monsieur, la France a été frappée notamment parce qu'elle s'est impliquée dans ces conflits. Donc, soyons très prudents. Moi, je respecte parfaitement cet argument parce que ce qui se passe à travers le développement de ces entrepreneurs de violence, Al-Qaïda, ACMI, ACPA, Daesh, est d'une gravité énorme. Mais on nous a expliqué qu'il fallait aller combattre ces acteurs de manière à protéger notre sécurité. Et je constate que la corrélation est en train de s'inverser, c'est-à-dire plus nous frappons, plus nous créons des comportements réactifs qui conduisent effectivement au malheur que nous vivons actuellement
dans votre logique, ça voudrait dire que nous devrions nous retirer de ce conflit. Enfin, c'est absolument pas aujourd'hui tenable. C'est que nous sommes déjà impliqués.
Non, dans ma logique, comme vous dites, qui d'ailleurs n'est pas ma logique, mais qui est la logique d'une analyse de la situation internationale, c'est que nous devons regarder avec des justes lunettes ce que sont ces conflits. Au lieu de dire frappons et renforçons les moyens de frapper, essayons de concevoir une autre approche qui soit plus en harmonie avec la nature réelle de ces conflits. Nous ne sommes plus au temps de la canonnière. La canonnière ne peut plus résoudre des problèmes.
Axel Poniatowski, votre commentaire, votre réaction sur ce qu'il conviendrait de faire, c'est-à-dire une solution plus politique et moins militaire, c'est ce que propose, en tout cas suggère Bertrand Badi.
Je pense qu'il faut les deux. Si vous voulez, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe là-bas jusqu'à maintenant. N'oublions pas qu'on a eu, on a cet épouvantable attentat d'il y a deux jours, inique. Mais nous avons quand même eu des attentats importants en France depuis maintenant deux ans. Je veux dire, on peut faire une liste d'à peu près une vingtaine d'attentats. Donc ça n'est quand même pas par hasard qu'on est allé s'attaquer à Daesh. Et il y a, à mon avis, un élément important qui manque dans l'analyse de M. Badi, c'est que on fait complètement abstraction du conflit chiite-sunnite. Daesh actuellement combat les Occidentaux d'une façon générale, vient commettre des attentats, mais combat avant tout le chiisme sur place. Et notamment en Irak, où les chiites sont majoritaires et ont pris le pouvoir. Également en Syrie, où les alaouites sont une forme de chiisme.
Donc, ils sont pas chiites, les alaouites, monsieur Poniatowski.
Enfin, c'est une variante, c'est une sous-variante. Disons, c'est une sous-variante.
Vous dites ça à un mollah iranien, il vous croira pas.
On a affaire par conséquent à un conflit sunnite-chiite, qui est d'une violence jamais vue jusqu'à maintenant. Et lorsque l'on parle régionalisation, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait une action diplomatique pour davantage régionaliser la coalition internationale. C'est que ceux qu'on veut régionaliser sont tous des sunnites. que soit l'Égypte, que soit les pays du Golfe dans leur majorité, sont tous des sunnites. Et là, on a affaire à un problème qui est très sérieux, parce que jusqu'à maintenant, il y avait, entre guillemets, une forme de soutien de certains de ces pays à l'égard de Daesh, dont on ne sait pas exactement d'ailleurs de quelle manière il était exactement formalisé. Enfin, ce soutien était là. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que Daesh va beaucoup trop loin et qu'il peut y avoir, on est arrivé à un stade où il peut y avoir, par la voie diplomatique, la constitution d'une coalition internationale intégrant ces pays arabes. Il y a autre chose.
Donc, il y a la politique, bien évidemment, militaire, politique internationale, diplomatique de la France. Il y a aussi la question des migrations. Je rappelle que le détenteur du passeport syrien découvert près du corps d'un des auteurs des attentats de Paris a été enregistré en tant que réfugié dans plusieurs pays avant donc d'arriver en France. Si cela se confirme, bien évidemment, cela ne sera pas sans conséquence sur la politique, et cela donne lieu à deux déclarations de Loïc Bussière.
Oui, parce que cette question de l'immigration, Philippe, eh bien, c'est la corollaire pour certains des attentats de Paris et de Saint-Denis. C'est en tout cas, dans une certaine mesure, la position soutenue par Nicolas Sarkozy. On l'écoute.
Sur le plan européen, l'Europe doit se ressaisir et déterminer les conditions d'une nouvelle politique de l'immigration. Il n'y a pas de lien, naturellement. Enfin, le problème se pose.
Je terminerai avec
Nicolas Sarkozy qui s'exprimait donc à l'instant sur le perron, ce matin plutôt sur le perron de l'Elysée. Vous évoquiez, Philippe, à l'instant, pour le coup, cette enquête, l'enquête en cours et ce passeport syrien trouvé près du corps d'un des auteurs des attentats de Paris vendredi soir. Il n'en faut pas plus chez certains responsables politiques pour s'engouffrer dans la thématique du contrôle du flux migratoire. Écoutez Marine Le Pen.
Ce que les Français attendent, c'est que des décisions fermes soient prises pour les protéger d'un danger qui non seulement existe, qui non seulement s'est aggravé, mais dont la potentialité d'aggravation est décuplée par, encore une fois, je le crois, l'absence totale de contrôle à nos frontières intérieures et les vagues gigantesques de migrants que nous annonce la Commission européenne.
Vos commentaires très rapides à tous les trois. Tout d'abord, Axel Poniatowski, donc député Les Républicains du Val-d'Oise.
Bah écoutez, très rapidement, je pense qu'on peut même aller plus loin que ça. Si on parle du problème de la sécurité en France, clairement, aujourd'hui, le dispositif de sécurité doit être renforcé. On ne peut pas, après ce qui s'est produit, se satisfaire de ce qui existe. Et on doit se poser la question du traitement des individus qui ont été répertoriés dans le fichier S, notamment ceux qui ont eu des liens avec des organisations terroristes. On doit se poser la question de certaines des mosquées, entre guillemets, salafistes qui existent en France. Et puis on doit se poser la question aussi d'un certain nombre d'imams intégristes à renvoyer dans leur pays d'origine. Je pense qu'il y a des mesures qui sont très fortes et qui doivent être prises en France dans les semaines qui viennent.
Ce que vous en pensez, Sébastien Pietrasanta, député socialiste des Hauts-de-Seine?
D'abord, le ministre de l'Intérieur expulse régulièrement des imams salafistes qui sont des prêcheurs de haine, donc là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Quand on prêche la haine, on est expulsé. Pareil sur les déchéances de nationalité. Hein. Je rappelle que c'est sous ce quinquennat qu'il y a des déchéances de nationalité. Il n'y en avait pas sous le précédent. Et puis sur la question migratoire, très rapidement, d'abord, il faut que les choses soient avérées et confirmées par le procureur de la République. Moi, j'attends de voir. C'est un ministre grec qui fait cette annonce-là. J'attends d'avoir la confirmation. Ce n'est pas un passeport volé, par ailleurs.
Ça, l'enquête,
L'enquête le dira. Et deuxièmement, ceci ne doit de toutes les manières pas remettre en cause notre devoir d'asile. Et je rappelle que les migrants, ils fuient Daesh. Il fuit Daesh, donc c'est Daesh, encore une fois, qui est responsable de cette situation-là.
Merci à vous deux, merci Bertrand Badi. Malheureusement, le temps nous manque, il va être 20h dans quelques instants. Il y a l'émotion et des manifestations partout dans le monde. 15 à 20 000 personnes actuellement réunies à Copenhague. Également, beaucoup de monde dans plusieurs villes de France. Et je vous rappelle que donc France Média Monde et RFI France 24 sont en deuil, puisque Mathieu Hoche, qui collaborait avec France 24, a été tué lors des attentats au Bataclan.